C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Le printemps qui s'installe et avec les beaux jours, l'envie de se prélasser au soleil, à la terrasse d'un café, au bord d'une rivière et de prendre du bon temps. Prendre du bon temps, justement, la devise d'une comtesse de la fin du 18e, début 19e, Marie Charlotte Louise Perrette Aglaé, plus connue comme Mademoiselle Bontemps. Tour à tour, comtesse de la Châtre, puis marquise de Jaucourt, elle est également maîtresse d'un certain Talleyrand. Issue d'une famille richissime, elle se fait remarquer par la noblesse, par sa beauté, ses robes et sa manière de profiter de la vie. Pour regarder plus en détail l'histoire de Mademoiselle Bontemps, la fine équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Alexandre Aublin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Anthony Le Flair.
Bonjour tout le monde.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, Mademoiselle Bontemps, première question pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut démarrer au commencement et parler de son enfance ? Qui sont ses parents ? Dans quelle famille va-t-elle naître, cette Mademoiselle Bontemps ?
Elle naît dans la famille Louise Perrette Aglaé. La petite Marie-Charlotte naît du coup dans la haute, hein, si je puis dire, dans la noblesse française du fin 18e siècle. Une noblesse qui ne fait pas la fière. Hein, la noblesse fait un peu.
Oui, parce qu'on le rappelle, on est quelques dizaines d'années après la Révolution.
Il y a moins de 50 ans, on se faisait couper la tête. Donc,
c'est une noblesse qui fait profil bas.
On file droit.
Oui, c'est ça, on file droit. On file droit, profil bas. On arrête d'arborer toutes nos richesses, hein, voire on se met un peu à essayer de placer son argent et à essayer de travailler, en tout cas, enfin travailler peut-être pas de ses deux mains, hein, mais d'essayer de faire des placements immobiliers, etc., etc. Voilà, essayer de voir l'avenir. Donc des parents qui n'ont pas trop le temps et donc qui ne s'occupent pas trop de leurs enfants et donc pas de la petite Marie-Charlotte. Mais ça va lui profiter à Marie-Charlotte parce que du coup elle va partir dans de nombreuses colonies de vacances qui est un concept qui a été instauré fin 18e siècle et dont elle va profiter allègrement.
Donc elle profite de colonies de vacances pendant toute son enfance, si je comprends bien.
Tous les étés.
Pendant environ combien de temps ?
Deux mois d'été complet.
Elle partait avec l'espèce d'organisme de la noblesse dont on partait entre filles et fils de nobles. Peut-être l'équivalent des rallyes aujourd'hui. Hein.
Ça s'appelait la CVEIN à l'époque.
L'ACVEN.
Le comité de vacances des enfants issus de la noblesse.
Comité de vacances l'ACVEN. Des enfants issus de la noblesse. Ouais. Très bien. Donc on se doute qu'elle s'est fait plein d'amis là-dedans et que c'était des moments très chouettes. Deux mois tous les étés, loin de Paris. Est-ce qu'on peut faire un petit tour des différents endroits qu'elle a pu visiter l'été ?
Alors c'est systématiquement le sud de la France.
Toujours le sud de la France.
On part vers le soleil. C'est l'idée de base pour cette congrégation, c'est de permettre à des enfants, donc à Paris à l'époque il fait souvent gris, il pleut, donc c'est vraiment d'aller vers le soleil. On vise Marseille, on vise
Nice,
on vise des villes comme ça qui ont un potentiel estival.
C'est comme ça que Cannes a été fondée.
Cannes a été fondée exclusivement pour des colonies de vacances.
À la base, c'est un lieu de villégiature où on a commencé à bâtir des centres de colonies de vacances de la CNEV.
Ouais, et puis, de fil en aiguille, il a fallu bâtir des commerces pour les gens qui animaient ces colonies de vacances. Et puis, du coup, c'est devenu une véritable ville. Mais donc, effectivement, la petite Marie-Charlotte Louise Perrette Aglaé connaît une enfance très heureuse, hein. Elle apprend à jouer de la guitare autour des feux de camp, elle fait du kayak, elle passe tout simplement du bon temps.
Passe du bon temps. Est-ce que c'est de là que vient son patronyme Bontemps, sur lequel on la connaît aujourd'hui ? Est-ce que ça vient de cette époque-là ?
Non, à l'époque on l'appelait MCLPA, ses initiales. C'est venu bien plus tard, On va y arriver, hein, mais d'où vient son patronyme Mademoiselle Bontemps et pourquoi c'est resté surtout ? Pourquoi ça a marqué l'histoire ?
Très bien. Donc là, dans l'histoire, on est à peu près à la fin de son enfance, si je comprends bien. Elle a passé tous ses étés dans des colos d'enfants nobles. Apparemment, c'était très chouette. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Ensuite, elle prend goût à ce genre d'organisation où on se rassemble, on fait la fête sur une durée précise. Et une fois qu'elle grandit, elle décide de s'orienter vers l'organisation justement de ce genre d'événement, mais pour les adultes. Et donc, elle va organiser des sortes de tours opérateurs,
des festivals, hein.
des festivals, et tout ça dédié à la noblesse française.
C'est l'équivalent des salons mondains, mais décentralisés. C'est-à-dire que très vite, de par son réseau, Mademoiselle Bontemps est une mondaine très connue à Paris. Ses salons attirent du monde, mais à partir du moment où elle va inviter ces personnes-là à sortir de la capitale, il va se passer quelque chose qui va créer sa réputation et sa légende.
Donc, en fait, l'idée, finalement, nous paraît toute bête maintenant, mais d'aller délocaliser au soleil. Mais à l'époque, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est la première qui a cette idée-là.
C'est la première qui le présente de cette façon-là.
Ouais.
Il n'y avait pas grand-chose en dehors de Paris, en réalité. Il y avait quoi ? Il y avait Nantes, il y avait Marseille,
Nice...
Bordeaux, un peu. Lyon.
Lille, à la limite.
Oui.
C'était le début,
ouais.
Et voilà, quoi. Après, c'est la Somme, c'est la Creuse, c'est...
Mais si vous voulez, on y allait pour des raisons familiales, politiques, professionnelles. On se déplaçait toujours pour une raison particulière. Là, ce que vient créer...
On ne partait pas en vacances.
On ne partait pas en vacances. Ce que vient apporter Marie-Charlotte avec cette idée, cette proposition-là, c'est de partir de débrancher un peu le cerveau, de souffler, hein, de partir sans raison particulière. Et ça, c'est une révolution, parce que même chez la noblesse qui avait l'habitude de profiter du temps libre, de s'offrir du temps libre, de jouir du temps libre...
Mais ils s'ennuyaient
et on ne s'offrait pas la possibilité du divertissement au sens noble.
Oui.
Moi, je le remercie quand même, parce que si on part en vacances aujourd'hui, c'est grâce à elle.
C'est un peu grâce à elle, ouais. Et bon, grâce à d'autres... peut-être mai 68 aussi, mais bon, c'est un autre
ouais,
échelle.
Mais
voilà.
Est-ce que mai 68 aurait arrivé s'il n'y avait pas eu MCLPA ?
Le concept de vacances, en tout cas, n'aurait peut-être pas eu...
Et d'ailleurs, dans ses mémoires, Léon Blum ne le cache pas, les premiers congés payés.
Ouais.
Il a été inspiré aussi par les projets mis en place par Mademoiselle Bontemps.
Il a d'ailleurs essayé de se faire appeler Monseigneur de Bontemps.
Oui,
ce
qui n'a pas marché.
Ce qui n'a pas marché.
Le pauvre, on se souvient pas de lui pour ça. Non.
Ah, les vacances.
Ouais.
Donc là, on a l'instauration finalement des premières vacances pour nobles, si je comprends bien.
Et ça reste quand même très sur soi.
Oui, bien,
on est
bien
sur un entre soi, des personnes qui ont les moyens.
Il faut leur prendre la main. C'est-à-dire que justement, c'est là où MCLPA prend son rôle et tire sa légende. C'est que personne n'y allait on était encore frileux. Et donc, c'était elle qui organisait toutes ces vacances et qui dirigeait le groupe de nobles qui partaient en vacances tous ensemble.
Alors, quel type d'activité est-ce qu'elle organisait pour ces personnes ?
Alors, c'est là où ça va toujours plus loin.
Ouais. Elle a tâtonné pas mal. Hein. Parce que, imaginez, vous êtes une enfant. Vous allez dans une colonie de vacances de la CVEIN. Bon, vous faites du poney. Vous vous amusez bien, vous faites une petite balade en poney. Maintenant, vous emmenez des nobles. C'est des adultes. Il faut peut-être trouver quelque chose d'un peu plus excitant. Le poney pour adultes. La girafe. Donc elle leur faisait faire des tours de girafe, ce qui n'a pas été un franc succès. C'est un animal sauvage, c'est un animal sur lequel il est difficile de monter.
Oui, parce qu'on ne trouve pas des selles pour girafe si facilement que ça.
Non. Alors, du coup, ils essayaient de mettre des selles de chevaux, mais ce n'était pas adapté.
Mais c'était l'occasion de tenter des choses,
voilà.
de créer.
Et puis, il faut savoir aussi qu'elle a mis en place MCLPA, un un ensemble de partenariats avec les acteurs locaux, le parc zoologique de Cannes, qui fournissait les girafes, les éléphants, les okapis, mais aussi tous les services portuaires pour les sorties en bateau, gastronomiques, avec les restaurants sur place qui ouvraient et qui développaient grâce à leur activité. Il y a tout un réseau touristique qui s'est mis en place sur la côte méditerranéenne.
En fait, si je comprends bien, c'est le début de l'industrie du tourisme.
Absolument.
Ah, complètement.
Ah, complètement.
Parce que, en fait, faut se figurer l'Italie à l'époque, faut se figurer l'Espagne à l'époque, faut se figurer l'Allemagne à l'époque. Il y avait Berlin, il y avait Rome, il y avait Madrid, et en dehors, il n'y avait rien. C'était la Creuse partout. Et lorsque les nobles issus des pays voisins ont vu ce que tentait MCLPA. Bon, alors, effectivement, il y a eu des tâtonnements, des ratés, mais quand elle a vu qu'elle proposait une perspective différente et un moyen de s'occuper pour ces nobles qui s'ennuyaient tant, ils se sont mis à venir, eux, envoyer leurs enfants dans les colonies de vacances, eux partir en vacances dans le sud de la France et dans les colonies.
Sauf les Italiens qui avaient quand même un coup d'avance sur nous là-dessus, hein, qui savaient profiter, les Italiens.
On continue cette affaire-là juste après la pause musicale.
Thank you.
Eddy Michel avec Laisse le bon temps rouler, et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. Donc on vient d'installer, on va dire, le contexte de l'invention, on va dire, de Mademoiselle Bontemps, qui invente tout bonnement les vacances pour les nobles du début du 19e siècle. On n'a toujours pas expliqué, par contre, pourquoi ce surnom de Mademoiselle Bontemps.
Alors, à votre avis, après tout ce qu'on a dit. Eh ben, non, mais ce surnom, en fait, il va lui venir très, très naturellement. À chaque fois que Marie-Charlotte va publier des écrits, elle va revendiquer cette philosophie comme la philosophie du bon temps. Et ce surnom, tout simplement, va lui rester.
Voilà, et tout le monde va l'appeler.
Et tout le monde finit par l'appeler. Et même, elle base sa communication, la communication de ces événements, autour de ce pseudonyme, en fait. C'est presque un personnage comme le bonhomme Michelin. Ah, oui.
Et on disait pas Ronald McDonald.
Ronald McDonald.
Et on disait pas on part en vacances. Le mot vacances n'existait pas encore. On part prendre du bon temps.
On part
chez Mlle Bontemps.
Chez Mlle Bontemps.
Mlle Bontemps.
Et alors forcément, c'est pas la seule à avoir l'idée. Enfin, lorsqu'on se rend compte que ça marche, il y a d'autres gens qui veulent se tailler une part du gâteau dans cette nouvelle industrie du tourisme. On pense
Marie-Edwige Didier.
Dit MED, qui elle aussi partait en vacances avec le comité de vacances pour les enfants issus de la noblesse lorsqu'elle était enfant. Et elle aussi avait fait du kayak, elle aussi a joué de la guitare autour des feux de camp. Et lorsqu'elle voit le succès de Mlle Bontemps.
Pourquoi pas moi?
Pourquoi pas elle?
Et elle fonde le Club Med.
Ça fait sens maintenant que vous l'expliquez de cette façon-là. Comment. Est-ce qu'il va s'installer une espèce de rivalité, ou est-ce que les deux initiatives ne parlent pas aux mêmes personnes?
Alors, y a une rivalité, et en même temps, les deux initiatives ne parlent pas aux mêmes personnes. C'est-à-dire que, petit à petit, avec le temps, Mademoiselle Bontemps, elle va considérer que ce bon temps qu'elle propose à ses clients, puisqu'en réalité, ce sont des clients, hein, les gens payent, tout le monde devrait y avoir droit. Et elle va tenter de mettre en place beaucoup de choses aussi pour que les classes sociales les plus, pas forcément les plus populaires, mais les plus moyennes,
les bourgeois,
puissent accéder à ces temps de vacances. Là où sa concurrente, et le Club Med à l'époque a une réputation très, très conservatrice, va considérer que ce temps de vacances, c'est un luxe dédié
à la noblesse,
aux personnes qui peuvent se le permettre.
Oui, donc on a vraiment deux visions
complètement
très opposées du bon temps, finalement. Est-ce qu'il doit être accessible à tout à chacun, ou est-ce qu'il est réservé aux plus privilégiés? Le Club Med, on le connaît aujourd'hui. Est-ce à dire qu'une vision aurait gagné par rapport à l'autre?
Alors, le Club Med a évolué quand même en réalité.
Oui.
En fait, on connaît le Club Med aujourd'hui, mais le Club Med a en réalité perdu la guerre de cette bataille touristique, puisque le Club Med s'est fait racheter par les centres Mlle Bontemps en 1750 après la guerre. Et 1950 après la guerre, d'ailleurs.
Par les héritiers de Mlle Bontemps.
Tout à fait.
Oui.
Donc Marie-Edwige Didier, grande rivale, si je comprends bien, de Mademoiselle Bontemps. Est-ce qu'on peut détailler un peu son parcours, son caractère, et à quel point est-ce que les deux personnages vont se confronter?
Déjà petite, elle ne s'aimait pas beaucoup. En vacances.
Elles sont parties en vacances ensemble?
Une fois. Oui.
Une fois.
Oui, dans les Calanques, près de Marseille. Alors il est dit que MED aurait lancé des algues dans les cheveux de MCPA
et MCLPA
et que elle aurait gardé ce petit goût amer dans la bouche
de Guémon.
Donc voilà, une rivalité qui remonterait à l'enfance, mais en tout cas il y a eu des coups fourrés ensuite.
Après, bien sûr, ces chamailleries n'expliquent pas tout, et pour remettre un petit peu dans le contexte, elles ont des parcours relativement similaires, mais elles ne viennent pas de familles aux idées similaires. La famille de Marie-Charlotte Louise Perret-Aglaé est très progressiste pour une famille noble de l'époque, j'entends.
Oui, bien sûr.
Toute proportion gardée.
Bien sûr.
Oui. Là où la famille de sa concurrente, c'est une grande famille parisienne qui possède quantité de journaux à Paris et qui a un poids, en fait, sur la politique, sur la communication des idées. Et très, très proche aussi de l'extrême droite. Très, très proche.
Il y aura des attentats inexpliqués dont on ignore encore aujourd'hui les auteurs.
Au club de Madame de Bontemps.
Au club de Mademoiselle Bontemps.
Et dont on sait aujourd'hui que voilà, ce sont des manières d'agir que l'on retrouve chez les partisans de sa concurrente.
Oui. Et tout le Mademoiselle de Bontemps et et Marie-Edwige Didier sont connus, leur rivalité est connue pour la date du 18 février, pardon, du 18 juillet évidemment, du 18 juillet
1821,
où elles auront décidé d'organiser au même endroit quasiment. Leurs deux clubs seront voisins un été dans la région de Lyon et elles ne le savaient pas. Et c'est au moment où les charrettes ou les calèches s'arrêtent pour déposer tous les nobles dans leur dortoir respectif que on se rend compte qu'on va devoir passer un été les uns à côté des autres. Et ça, c'est
là, c'est une guerre de camping en fait. Pendant un mois et demi, c'est une guerre de camping. Et vas-y que je te retire tes sardines alors que la tempête arrive.
Et, oui.
Et vas-y que
je te coupe l'eau dans les douches.
Je te coupe l'eau dans les douches et que je mette des cubes de bouillon dans les piscines. C'est ça n'arrête pas. Je veux dire chaque jour on les retrouve aussi dans les archives de la ville de Lyon, dans les archives journalistiques de la ville de Lyon. Chaque jour.
Est une escalade
de la violence, de la bêtise, parce que les actions menées sont parfois violentes, parfois humiliantes, dégradantes pour toutes celles et ceux qui s'y trouvent confrontés.
Mais et puis ça amènera des conséquences graves. Monsieur de Pinton, qui un riche noble parisien qui venait au club de Mademoiselle Bontemps. Trouvera la mort le 18 août lorsqu'il prend une bouée pour aller dans la piscine. Il s'avérera qu'elle avait été crevée par le Club Med et donc il se noiera ne sachant nager.
Comme 98% des nobles de l'époque, il ne savait pas nager. Un fléau chez les nobles, ça. On vit à Paris donc on ne sait pas nager. Et en fait, il y avait beaucoup de problèmes liés à ça. Donc, le poste de surveillant de baignade était très 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 important dans ces colonies.
Et tout le monde l'avait bien compris. Hein. Les attaques étaient beaucoup liées à la navigation, au système de flottaison. On attaquait les bateaux, on attaquait les bouées.
D'ailleurs, il y a eu un arrêté municipal suite à ces événements qui est encore d'actualité à la ville de Lyon, qui ne l'a pas encore retiré, qui dit qu'il est interdit de crever la bouée d'une personne, tout simplement. Il est interdit de crever une bouée ou quelconque moyen de flottaison dans la ville de Lyon, sous peine de prison.
Alors, justement, cette guerre de camping telle que vous la présentez, c'est devenu un été très célèbre dans l'histoire et on le retrouve dans certains films, comme par exemple Du bon temps à Lyon, sorti juste après la guerre. Je vous propose qu'on en écoute un extrait.
Excusez-moi, c'est vous le responsable du camping ?
Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez un problème, c'est ça ?
Oui, on m'a encore volé mes flip-flops.
Des flip-flops ?
C'est la deuxième fois cette semaine. On m'a volé mes flip-flops bleus, je ne peux me rendre à la piscine sans mes flip-flops.
Écoutez, vous vous rendez à l'avant du parc et du club et vous allez trouver le magasin de flip-flops.
Magasin de flip-flops ? On me les a volés, je ne vais pas racheter. Vous savez qui je suis ?
Excusez-moi, je ne peux pas retenir tout le monde.
Je suis le ministre des Finances du roi.
Excusez-moi.
Je suis Monsieur Corbusier.
Excusez-moi, Monsieur Corbusier, je vous avais pas reconnu. Je vais vous tirer tout directement vous chercher des flip-flops. Excusez-moi pour la méprise.
Les enfants, sortez de la piscine. Restez pas dans la piscine.
Bonjour, Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Revenez. Non. Émeric, tu sors.
Monsieur Vincent.
Oui.
Les flip-flops que vous avez au pied. Où les avez-vous trouvés ?
On me les a vendus hier.
Mais ce sont des flip-flops bleus.
Sur la plage, ce sont des gens...
Donnez-les moi, regardez,
non,
en dessous.
Enfin, vous non, mais attendez, vous plaisantez ou quoi?
Il y a écrit mon nom, regardez.
Enfin, ce sont des gens du Club Med qui me les ont vendus hier, sur la plage.
Oh les salauds. Oh les salauds, ils ont vendu mes flip-flops. Oh les salauds, ils ont vendu mes flip-flops.
Donc, avec cet extrait de film, on voit le genre de petite chamaillerie qui est installée de manière quotidienne pour déstabiliser le camp adverse, si je puis dire. Vraiment, comme vous le disiez, des petites guerres de camping, on vient voler des tongs, on vient voler des bouées, etc. Comment se termine l'été après tout ça? Est-ce que, par exemple, le ministre des Finances qu'on a vu...
Monsieur
Corbusier, tout à fait... Voilà, est-ce qu'il va tenir tout un été sous ce régime-là?
Non, il repartira dès le lendemain de cet événement. Et d'ailleurs, il en parle dans son autobiographie. C'est un événement qui est évoqué. C'est pas rien, c'est pas pour vous dire que c'est pas juste une paire de flip-flops. Ça a marqué la noblesse de l'époque, cet été 1821.
Monsieur Corbusier ne prendra plus aucune vacances après cet événement. C'était les premières qu'il prenait de sa vie. Il avait acheté des flip-flops pour l'occasion.
Il avait même acheté deux paires et il s'est fait voler les deux paires.
Il se faisait une joie de les montrer à tout le monde.
Et oui. C'était symbolique pour lui cette paire de flip-flop, il les s'est fait voler et il y a c'est terminé, les vacances c'est terminé. Et donc voilà.
Et ce qui est assez intéressant, c'est aussi de voir que cette violence, ces stratégies d'attaque, elles fonctionnent sur des point symbolique. C'est-à-dire que les actions les plus violentes ou les plus humiliantes ne vont pas forcément être les plus efficaces. Mmh. Et ça, d'un camp comme dans un autre, on va vite s'en rendre compte. Et on va s'attaquer aux effets personnels, aux flip-flops, aux maillots de bain, aux lunettes de soleil, à la bouée de canard. En fait, à des objets qui, pour les personnes qui partaient en vacances, c'était une façon de dire « Regardez, je passe du bon temps. Eh bien, écoutez, on va s'attaquer à ça.
Ouais.
On va venir entacher.
» Et la noblesse française a connu un pic, a connu cette espèce de pic de bon temps qui va redescendre et qui va
à partir de cet été.
À partir de cet été-là, qui sera un été déplorable pour tout le monde. Personne ne voudra retourner en vacances.
La ville de Lyon a été boudée pendant longtemps.
Pendant très très longtemps, ce n'est pas du tout un lieu touristique pendant très très longtemps, ça s'est resté gravé. Et donc c'est là où, comment dire, ça va continuer de vivoter, le club du bon temps, le club Med aussi. Et c'est après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, que ces deux clubs, ces deux entités vont réussir à...
fusionner
déjà d'une et en plus à reprendre
à faire la paix
et à reprendre les lettres de noblesse qui vont avec ce qu'on connaît aujourd'hui des vacances.
Très bien. On arrive bientôt à la fin de l'émission là. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur Mademoiselle Bontemps et comment est-ce qu'elle va réagir à cet été et qu'est-ce qui va se passer après pour elle?
Alors elle va être complètement détruite par cet été, l'été noir comme elle l'appelle, l'été noir. Elle va continuer à travailler parce qu'elle a des principes et qu'elle se sait à la tête d'une entreprise et d'un projet qui la dépasse en réalité. Elle ne fait plus ça pour des raisons d'ego, elle ne fait plus ça pour des raisons personnelles, elle est tournée entièrement vers les autres. Donc elle va continuer, mais elle va continuer la mort dans l'âme et elle sera un visage triste sous le soleil, comme l'appelait Victor Hugo.
Un visage triste sous le soleil, des mots de Victor Hugo pour la fin de cette émission. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à Mademoiselle Bontemps. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.